Avec compunction. On l'étudie avec. Alors ça fait pas ça. Ouais, c'est pas ça. C'est surtout le fait que c'est le signe que c'est pas la Torah qu'on étudie. On étudie la législation révélée d'Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On en parlera pas en termes de religion. Et on en parlera en termes de confession religieuse. C'est quoi la différence? Mais pas de religion vraie. Et alors on pourra dire, enfin, toutes ces choses auxquelles nous sommes habitués, parce que c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, pour dire quelque chose, que à moi la Torah, c'est important, mais je suis athée. Bien, alors revenons. Ça, c'est vous voyez, l'atmosphère du sérieux puritain sadducéen qui est extraordinairement différente de l'atmosphère de la maison d'études des pharisiens où la Gemara dit. Parce que deux Talmidei Chachamim commencent à étudier, s'ils commencent pas à rire ensemble, ils sont Hayav Mita, on devrait les mettre à mort. Pourquoi? Parce que. Oui, jusqu'où va l'humour? Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent de ce qui donne le rire, de la joie, du bonheur d'être, et ils ne rient pas. Alors ils sont des criminels, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des farceurs. Oui, après le truc. Bien. Et on commence. C'est une règle des Talmidei Chachamim, toujours par Devarim de Bdicha. Bdichuta en araméen. Bdicha, ça veut dire des blagues. Okay? Ces blagues profondes du Talmud. Et c'est comme ça, vous rappelez que donc toujours cet exemple, c'est comme ça que commence la Torah elle-même, à nous provoquer avec un humour gigantesque que personne ne voit, enfin chez les Sadducéens. Je vous rappelle, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Résultat, la terre était chaos. Et puis on ne se rend pas compte de ce qu'il y a écrit là. C'est parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Alors nous sommes en état de chaos. Et si ce n'était pas lui, pour nous, on serait. Vous voyez qu'on ne se rend pas compte que ce texte est étrange et que c'est dans une toute autre atmosphère que le sérieux de la componction habituelle au Sadducéen, encore une fois, qu'il faut l'aborder. On ne peut pas commencer à lire ce verset sans un énorme éclat de rire. Ce qui est le signe de la sagesse. Ça y est, c'est clair. Et alors, vous allez dire, et comment sortir de ce rire? Eh bien, ça, on demande à quelqu'un qui a appris de son maître comment on sort de ce rire-là pour aller dans un autre. Bien. Alors, voilà donc ce qu'on peut apprendre déjà de cette expression « Kede shenasigehu venit aneg » Be'asagato, tachlit ata'anouk. Tachlit ata'anouk. Le plus entier, le plus absolu de ce bonheur d'être qui s'appelle ta'anouk, qu'on atteint que à Mincha de Shabbat, on est que Shabbat. Est-ce que je suis arrivé à exprimer la différence qu'il y a avec une visée intellectuelle, purement, disons, purement intellectualiste? C'est une forme de connaissance qui est authentifiée par l'émotion qui l'anime. D'où d'ailleurs le signe que nous avons là. Et que tant qu'il n'y a pas cette émotion de joie totale, c'est le signe que ce n'est pas la Torah qu'on étudie. C'est la projection de sa propre pensée sur un livre à qui on fait dire ce qu'on pense parfois même. Et alors quand effectivement, on rencontre dans la recherche de la vérité comme réponse que sa propre question inversée, on ne peut qu'être déçu et triste. Et d'abord perplexe, mais surtout, pessimiste. Enfin, pessimiste. Attendez, je cherche un terme pour exprimer cela. Inquiet, voilà, inquiet, c'est le mot que je cherche. Angoissé. Si c'est moi qui réponds à ma question lorsque j'interroge l'absolu, alors je ne peux être à la rigueur qu'inquiet. Quand on est adolescent, on est ignoré de sa propre réponse, de sa propre réflexion, mais il arrive un âge où inévitablement on se rencontre tout seul devant le néant et on sait que c'est soi-même qui répond à sa propre question, que Dieu n'a jamais parlé, puis c'est moi qui le fais parler. Et alors on ne peut être que angoissé, d'où d'ailleurs le caractère très authentique du philosophe authentique qui ne peut être qu'angoissé. Un philosophe qui ne serait pas angoissé ne serait pas un philosophe angoissé. Parce qu'il sait, dans son monde philosophique, que c'est lui qui répond à ses questions. Est-ce que c'est clair? Et même lorsqu'il projette ses réponses sur le texte de la Torah, il lit autre chose. Il lit la projection de sa propre réflexion. Le signe, c'est la joie ou l'angoisse, finalement. Et le Talmid Chacham vit dans ce monde de bonheur d'être. Il est très inquiet de l'état moral du monde où il vit. Il a, si vous voulez, une angoisse pratique du tikkun, comment arranger ce monde. Mais il ne connaît en aucun cas l'angoisse métaphysique. Parce que il a atteint ce bonheur d'être que oui, il y a. Et que cet absolu du il y a parlé et qu'on peut le comprendre. Seulement, tant qu'on n'entend pas, Shamarti Shimahaya Reti, tant qu'on n'entend pas ce niveau de la connaissance de Dieu, dont il est parlé ici, et le signe est qu'on n'a pas atteint ce bonheur d'être, eh bien, c'est le signe qu'on a lu autre chose, qu'il s'agissait d'autre chose, qu'on a prophète, mais faux prophète. Bien, est-ce que c'est suffisamment clair? Quand même, je crois que c'est important de le signaler. Alors, où est la surprise? C'est que c'est Maïmonide qui nous dit ça. Maïmonide, qui réputait être le philosophe, rationaliste, théologien, aristotélicien, etc. Bon, c'est clair. Mais je comprends bien que si on avait traduit à la manière dont c'est traduit à côté, félicité extrême, brûlant de connaître, on ne peut pas voir ce qu'il y avait en hébreu. Vous voyez le problème? C'est pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus. C'est que, bien évidemment, au fond, ce qui manque à la communauté juive contemporaine, c'est une langue juive. Je pense que c'est ça le drame. Quand des juifs réfléchissaient en yiddish, ou en judo-arabe, ou en ladino, il n'y avait pas toutes ces plus qu'impropriétés, ces malentendus énormes qu'il y a maintenant que la culture juive s'exprime dans des langues universitaires, mais qui ne sont pas des langues juives. Est-ce que je vous suivez, vous comprendre? Peut-être qu'un jour il y aura un judéo-français, je ne sais pas. Mais je ne sais pas ce que ça peut être. C'est possible. Mais en tout cas, je ne crois pas que dans le français de l'université, on puisse exprimer vraiment l'hébreu de la Torah. Il fallait une langue juive. En yiddish, oui, c'était possible. En judéo-arabe, en judéo-espagnol, c'était des langues juives. Mais dans une langue universitaire, on ne peut que faire de la philosophie sur le judaïsme, mais c'est ce qui a été fait, d'ailleurs, dans le siècle des Lumières, surtout, beaucoup plus que l'expression de la tradition juive dans le langage d'autrui. C'était l'inverse de l'inverse 13 fois. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Et il y a là une difficulté très, très grave. Bien. Je pense que j'exagère un peu peut-être, que même dans des langues comme le grec ancien, le latin ancien, l'arabe ancien, ça pourrait se faire. Et à condition, évidemment, que ce soit quelqu'un qui maîtrise l'hébreu et cette langue-là. Parce que ce sont des langues qui véhiculent... ce sont des langues liturgiques, alors qui véhiculent une autre sensibilité liturgique, mais on peut s'expliquer, parce que ce sont des langues liturgiques. Alors que dans les langues dites vernaculaires, de communication, telles qu'elles sont devenues aujourd'hui, et qui n'ont gardé qu'une imprégnation liturgique, mais enfin de sensibilité vraiment très étrangère, alors il y a une incapacité de s'exprimer. Bon, on continue. Les fichams, Vezoria va Metsuva Alenu, et c'est ça l'amour qui nous est commandé. Ça veut dire, cet amour qui nous est commandé n'est pas authentique tant que l'on n'est pas heureux d'aimer. C'est ça que Maïmonide a voulu dire. Et comment on peut arriver à devenir à être heureux d'aimer en sachant vraiment qui est l'objet de cet amour? Et comment savoir l'objet de cet amour, qui est-il, en étudiant là où on peut trouver la connaissance de lui jusqu'à arriver à ce bonheur d'aimer. Tant que l'on n'est pas arrivé là, alors on n'a pas accompli ce comment. Voilà, Vezohi Ahava Ametsuva Aleda, ou Shona Sifre. Et voilà, dit Maïmonide, quel est le langage, enfin la citation du Sifre. Le Sifre, c'est-à-dire le Midrash que nous avons étudié hier avec Rashi sur le verset « Tu aimeras Hachem, ton Dieu. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Les fiches Nehemar, parce qu'il est dit, Ve'ahavta et Hachem Elokecha, tu aimeras Hachem, ton Dieu, Yodea ani, Ketzad ohev et Amakom, suffit-il qu'il soit dit, tu aimeras, comme commandement, pour que je sache, moi, comment aimer. Point d'interrogation, vous voyez. Talmud Lomar, c'est cela que le verset veut enseigner en disant, Ve'ayu advarim ha'ele, et seront ces paroles, Asher anochi mitzavecha ayom al levavecha, que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur. Ça veut dire, c'est en étudiant ces paroles que tu pourras arriver à cet homme. Ce qu'on a étudié ici, grâce au sifre, c'est ce qu'on appelle la smichut, le lien, la jonction entre deux versets. Il y a un verset qui enseigne un premier contenu, un deuxième verset qui enseigne un deuxième contenu mixte. La smichut, le fait que les deux versets soient joints, enseigne quelque chose. Vous voyez, nous avons eu un exemple d'un midrash de smichut. C'est clair. Hein? On pourrait ici voir deux commandements différents. Premièrement, tu aimeras. Deuxièmement, tu étudieras. Mais le fait que le commandement tu étudieras est joint au commandement tu aimeras, c'est pour nous enseigner, dit le sifre, que cet amour ne peut être atteint qu'à travers cette étude. Voilà quel est le raisonnement. Et là, c'est clair, vous voyez que Maïmonide nous cite de façon très claire que c'est la connaissance de la Torah qui mène à la connaissance de Dieu. Je veux dire, qui authentifie cette connaissance de Dieu que tout homme peut avoir s'il expérimente cette donnée naturelle, universelle de l'âme humaine, de la découverte simultanée de la proximité, de l'éloignement dans la crainte de l'amour. Ça y est, c'est clair. Chez Mitorkar, Atamakir, Mishéamar, Vaya Olam. Parce que c'est à travers cela, cette étude de ces paroles, que tu connaîtras, reconnaîtras, sauras qui c'est, qui a créé et le monde a été. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Le Lachon employait, l'expression employée par Maïmonide est très importante ici. Et ici, tu l'avais cifré. Chez Mitorkar, Atamakir, ça ne veut pas dire tu sauras que Dieu existe. Ça veut dire tu sauras qui est ce Dieu qui existe. Et c'est très différent. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans l'universel humain? Beaucoup savent que Dieu existe. Mais qui sait qui est ce Dieu qui existe? C'est ça la différence. Et je pense que le monothéisme le plus proche de celui d'Israël, et qui est celui de l'islam, montre bien cette différence. C'est que le terme employé pour dire Dieu par le musulman. Et sa kavana, son intention, c'est bien de désigner le Dieu d'Abraham. Il n'y a aucune hérésie à ce niveau de la théologie de l'islam, dans la monothéisme. Lorsqu'ils disent Allah en arabe, c'est le mot Eloka en hébreu, Aleph Lamedhe, okay, le mot qui signifie Dieu. Leur intention, c'est de dire le créateur unique dont Abraham a parlé. Un point, c'est tout. Bon, les mystiques vont venir ensuite, les mystiques musulmans, et vont nous dire ce qu'ils connaissent, eux, de celui dont l'orthodoxie musulmane parle. Bon, mais ça, c'est déjà de la spéculation mystique. Et puis, ils connaissent un certain nombre d'attributs, en particulier l'attribut du Rahman, c'est le même mot en arabe et en hébreu, et c'est très joli en arabe, d'ailleurs, c'est déjà joli en hébreu, mais en arabe, Rahman, c'est très rare, d'ailleurs, en arabe, mais ça existe. Rahman, ça veut dire miséricordieux. Et seulement, l'allusion est assez d'une transcendance absolue. Ils connaissent le mot Elohim. Il y a Dieu. Et ils savent qu'il est le Dieu d'Abraham. Mais qui il est ce Dieu d'Abraham? Ça, il faut demander aux enfants d'Abraham. Vous voyez quel est le fond du problème? Le Shema Vaya, Yudke Vavke, lui, celui que Dieu est, son nom propre, ne connaissent pas. Et c'est le cas du monothéisme le plus proche du monothéisme d'Israël, à côté de qui la théologie chrétienne nous apparaît comme un paganisme absolu par rapport au monothéisme musulman. Et les musulmans eux-mêmes le savent par rapport à leurs collègues chrétiens d'ailleurs. Et alors donc il y a une mystique musulmane qui va parler de Dieu, mais elle parle surtout de l'amant de Dieu, de l'ami de Dieu, c'est-à-dire du croyant lorsqu'il parle de lui parlant de lui. Et vous voyez cette différence. Chez Mitorkar, Atamakir, Mi, chez Amar Vayaolam. Je voudrais qu'on arrive à l'entendre en hébreu. Il n'est pas du tout dit parce que par là tu sauras que Dieu existe. Ça, c'est de la théologie philosophique. Mais par là tu sauras qui est celui qui a parlé et le monde a existé. Qui est-il? Ça y est, c'est clair. Oui, la différence de nature. De la même manière, ce que dit le Midrash en parlant d'Abraham, que à l'âge de 3 ans, Abraham hikir et boro, a reconnu qui était son créateur. Alors qu'on traduit habituellement, lorsqu'on traduit ces midrashim, qu'à l'âge de 3 ans, Abraham a découvert par un raisonnement philosophique que Dieu existait. Il ne s'agit pas de ça. Il a connu qui était son créateur. Oui, la différence. C'est pourquoi nous sommes la religion du nom de celui qui est Dieu. Nous connaissons son nom. Vanochi et Edarticha Beshem. Je te ferai connaître mon nom. C'est ça la spécificité de la révélation à Israël. Je te ferai connaître qui je suis. C'est de ça dont on parle lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu. La connaissance que Dieu a révélée à l'homme, pas celle que l'homme, dans l'enquête, la spéculation philosophique, théologique, recherche et établie dans l'exploration de l'idée de Dieu. Ça, c'est la coûte. Et ça s'arrête là. J'ai entendu une fois le Rav Kook parler de la différence chez Kant, il citait son père d'ailleurs, entre le noumen et le phénomène. Vous connaissez cette différence? Alors, il dit que lorsque Kant aurait tendance à dire que le noumen, c'est Dieu, c'est là qu'elle est l'erreur. Le noumen, c'est encore et la coûte, c'est encore le divin et non pas Dieu. Celui qui est Dieu, aucun homme ne l'atteint par ses propres forces. Il a fallu que ce Dieu se révèle pour que nous sachions qui il est. Mais l'enquête de l'intelligence humaine n'arrive qu'à explorer l'idée de Dieu. Vous voyez donc quelle est la gravité, enfin l'importance du problème, et c'est très important de savoir cela. Pour la tradition juive, le monothéisme musulman, je ne parle pas de la morale musulmane, mais du monothéisme. Le monothéisme musulman est absolument cachère. Ce n'est pas le monothéisme hébreu qui est au-delà, mais il est cachère. Et encore une fois, l'intention du croyant musulman, c'est de faire allusion au Dieu dont a parlé Abraham. Seulement, il ne sait pas qui il est. Et cette révélation de qui est-il s'est passée par Israël. Et Israël sait qu'il y a, c'est les sources que nous étudions, dimanche, vous en aurez une troisième, qu'il y a deux voies, V-O-I-E-S. L'étude du monde, qui mène à la connaissance de qui a créé le monde, et d'autre part, l'étude de la Torah, qui mène à la connaissance de qui a voulu que la loi de notre comportement dans le monde, si vous voulez, la loi de notre destinée, je n'ai pas dit destin, soit celle-là et pas une autre. Oui. Alors, je veux qu'il y ait une option de foi pharisienne qui est a priori, qu'on ne trouvera pas dans l'attitude salicéenne. C'est-à-dire que, rencontrant ce livre qui s'appelle la Torah, rencontrant ce monde qui s'appelle l'univers, eh bien, le pharisien a premièrement l'option que il y a quelqu'un qui a donné ce livre, et non pas que des hommes l'ont écrit en réfléchissant à ce quelqu'un. Qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde, et qu'on ne fait pas semblant. Et que c'est ainsi que est l'option préalable. D'où vient cette option? C'était ma question tout à l'heure. D'où vient cette option? Il y aurait un cercle vicieux, vous comprenez? Oui. Je ne sais plus comment, au temps de Descartes, on formulait ce cercle vicieux. Les Écritures renvoient à la foi, seulement c'est la foi qui renvoie aux Écritures, alors il y a un cercle vicieux. Et vous connaissez, si je vous dis un nom, vous connaîtrez la réponse. Judas Lévi, qu'est-ce que vous me direz, Judas Lévi? D'où nous vient cet a priori? Enfin, qu'un juif de la tradition juive, lorsqu'il rencontre la Torah, il sait que c'est la révélation avant même de savoir ce qu'il y a dedans. Alors quand il l'étudie, c'est pour savoir en quoi il croit. Vous vous rappelez de la première? Alors que le Sadducéen a un événement culturel entre les mains, il étudie parce qu'il est un homme de culture, et puis il croit en ce qu'il comprend. Mais la différence. Alors d'où ça vient? Eh bien, ça vient de notre histoire. Ça vient d'Israël. Ça vient d'une mémoire. Et nous avons retrouvé cela d'ailleurs hier avec le Maharal. Il y a une mémoire, une connaissance par la mémoire, non encore élucidée par l'étude. Et l'objet de l'étude sera précisément de transformer cette mémoire en savoir. Mais il n'y a que cette mémoire qui peut être transformée en savoir. Vous vous rappelez de ça, que cette mémoire, ça commence à Abraham. Vous vous rappelez que la fonction de la mémoire est attribuée à Abraham. Et c'est Moïse qui nous donne l'étude qui a pour objet de transformer la mémoire d'Abraham dans le savoir du Mashiach. Enfin, j'ai un peu enjolivé, mais vous avez compris l'organisation de l'homme. Et c'est aussi, à mon sens, parallèle, très parallèle, pour la connaissance de qui est Dieu à travers l'étude du monde. Ça, nous l'étudierons surtout avec Michel dimanche, et nous verrons les précisions qu'il faut apporter à ce sujet. Mais vous voyez qui est Maïmonide dans ce texte. C'est clair. Que, autant on peut avoir raison de s'opposer à des figures de Maïmonide, qui serait le philosophe rationaliste aristotélicien projetant sur les traditions de la Torah. Eh bien, autant il faut dire tout de suite, mais enfin, quel Maïmonide vous avez rencontré? Celui-là ne parle pas comme ça. C'est clair. Et je peux donc continuer. Hine be'arnu lecha. Et voici, nous t'avons expliqué. Shebaista klut tavo l'idée à saga. Que par l'approfondissement, la réflexion, istaklut. Et c'est un approfondissement, une réflexion qui te rend intelligent. Bien, vous voyez, il y a sechel, non? Istaklut. Tavo l'idée à saga. Tu arriveras à atteindre une connaissance. Ve'im matzelecha ta'anuk. Tu trouveras ce bonheur d'être, mais ta voix va vers et cet amour viendra nécessairement. Je rappelle la parenthèse de méthode que nous avons eue hier déjà dans l'introduction de Maïmonide. Que ça a l'air un peu naïf, si vous voulez, ce caractère automatique du résultat pour tout le monde. Alors que nous savons que dans l'expérience, eh bien, beaucoup ont essayé, peu sont arrivés à ce résultat. Comment se fait-il qu'ils nous disent avec autant de simplicité que c'est automatique, que c'est nécessaire, Bechrea, si vraiment tu as cette connaissance, alors vraiment tu arriveras à ce bonheur et vraiment tu sauras ce qu'est cet amour. Or, nous voyons très bien que énormément d'hommes essayent, quand je dis hommes, ça veut dire femmes aussi, essayent et n'arrivent pas. C'est que, c'est ma manière de comprendre cela, Maïmonide est vraiment un aristocrate de la vérité, un aristocrate de l'identité humaine. Il parle pour des hommes normaux. Et il veut nous dire, si tu es normal, eh bien c'est inévitable comme résultat. Alors si le résultat n'est pas là, ça ne concerne plus le rabbin, ça concerne peut-être le rebouteux, je ne sais pas. Alors on continue. Ukvar amru. Et déjà on a dit que ce commandement implique aussi kolelet, enferme, oui, implique gamken aussi shenikra et kol bene adam la'avodato itale ulemunabu, que nous puissions, que nous devions appeler tout homme, kol bene adam, tout homme, quel qu'il soit. Vous voyez pourquoi, selon lui, ce comportement est universel. Parce que l'amour et la crainte, c'est universel, ainsi défini, comme nous l'avons dit, avec pour objet l'absolu de cet « il y a » qui rende compte de l'existence de la Torah et de l'existence du... on peut falsifier la Torah et dire que ce n'est pas une Torah, et par conséquent, que ce n'est pas évident que c'est un Dieu qui a donné cette Torah. Vous comprenez? Ça, c'est possible. On peut aussi nier le monde et dire que le monde n'existe pas, que c'est une illusion, que par conséquent on n'a pas besoin d'un créateur puisque le monde n'existe pas. Mais ça c'est le refus du problème. Mais si le problème est accepté, alors l'expérience est universelle. Qu'est-ce qui a empêché l'universel humain à arriver à la Torah d'Israël? Ça, nous avons souvent touché ce problème. C'est leur antisémitisme. Ta Torah, d'accord, mais pas toi le juif. Ça. Vous voyez à peu près le problème. Mais autrement, et Maïmonide a raison, il nous décrit ici une expérience universelle dans le principe. Je reprends la phrase. Chez Nikra et Kol Bne Adam la Aurato et Ale ou le Munabo, au service de lui, Dieu, et à la foi en lui, ou le Munabo. Chez Kev, Imata Oheb et Michéou. Car si tu aimes quelqu'un, te halelenu. Adam le si tu aimes quelqu'un, tu ne peux que le louanger, le déchaverrer ou dire sa louange. Et c'est la avoda, le culte à un certain niveau. Betikra vene Adam la avodato, et appeler les autres hommes à l'aimer aussi. Vezé adhérer Hamashal. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir du moment où quelqu'un a eu cette expérience, il sait que cette expérience est universelle. Et par conséquent, sa avoda est premièrement appeler tous les autres à la même expérience et au même service. Vezé adhérer Hamashal. Et ceci par exemple, car im te'ehav et Hashem be'emet, si tu aimes Dieu en vérité, en cela que tu as pu atteindre la connaissance de sa véracité, de sa vérité, il est évident, alors je dirais que tu feras du prosélytisme, tu deviendras militant, comme on dit aujourd'hui, que toi, sans aucun doute, tu appelleras les ptaïm, Marquimat petit, oui. Comment traduire pour être pas méchant? Ptaïm, c'est pas les saints d'esprit, c'est Ptaïm, ceux qui sont en dehors du coup. Vesralim, je veux pas dire imbécile, ça ce serait des traductions trop grossières. Lydia Taemet, et à la connaissance de la vérité, chez Atak Variodéar, que toi déjà tu connais. Hors de quoi? Pourquoi? Pourquoi il nous dit que le fait de connaître la vérité ne peut que mener à ce militantisme, comme j'ai dit. Je voudrais éviter le mot de prosélytisme. D'où ça vient? Quelle est la motivation? Il ne nous dit pas, et d'autre part, il y a un commandement d'amener les autres à la même vérité que toi. Il dit que de ta connaissance de la vérité, tu seras mené à amener les autres à ta vérité. C'est que hors de quoi cet amour serait inauthentique. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu Aïn Ra'a. J'ai eu, moi, un bien exceptionnel et je ne le veux pas pour l'autre. Alors c'est que je ne suis pas vraiment dans cet amour. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle avoir l'œil mauvais. Je n'ai pas dit mauvais œil en français, ça veut dire Aïn Ra'a. C'est celui qui dit: ah, mais j'ai la chance extraordinaire d'avoir cette grâce-là, que j'ai eu accès à la vérité, ah mais je ne veux pas que l'autre l'ait. Ça ne peut pas faire partie de cette vérité. Vous voyez? Au contraire, nous dit Maïmonide, c'est encore un signe que c'est authentique, que tu n'auras de cesse qu'à mener les autres à partager ton bonheur. Sinon, c'est que tu es égoïste, jaloux, etc. C'est pourquoi je voudrais vous dire, et là, de nouveau, nous avons la même ambiguïté de vocabulaire et le même danger de questions de malentendu que nous avons eu il y a deux ou trois cours lorsque je vous ai parlé du caractère anthropologique de l'identité d'Israël dans le problème de la connaissance. Vous vous rappelez de cela? Et qu'il faut se dégager des risques de lecture de racistes de ces catégories-là. Vous comprenez bien l'importance du problème. Alors ici, c'est la même chose. Il n'y a pas de doute qu'il y a une sorte d'impérialisme d'Israël de la conquête du monde entier à la vérité unique. Mais ça n'a rien à voir avec l'impérialisme, fut-il chrétien. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis impérialisme, ça veut dire, regardez, qu'est-ce que nous disons dans la... C'est-à-dire, la conscience d'Israël n'aura de cesse que lorsque le monde entier sera converti à la vraie religion. Je vous dis ça à la manière des inquisiteurs. Pourquoi? Parce que pour la conscience d'Israël, l'intérêt et la vertu coïncident. Et nous avons intérêt à ce que le monde devienne vertueux, sous peine de mort. C'est clair. Nous savons très bien que si le monde n'est pas soumis à la vérité de la loi morale absolue, nous n'avons pas de place dans ce monde. Alors nous avons intérêt à ce que tout le monde devienne vertueux. Bon, j'ai un petit peu humorisé ça, mais pour essayer de vous expliquer que nous avons passé notre histoire à essayer de convertir le monde entier au véritable Dieu. Ça a été échec sur échec sur échec. Qu'est-ce qu'on a sorti? Le christianisme, l'islam, le marxisme, le freudisme, tous les ismes, même celui de Suez. Mais je veux dire que tout ça, c'est sorti d'Israël, sauf. Mais si nous faisions un bilan, okay, et quelle que soit la valeur partielle qu'il y a dans chacun de ces échecs, nous sommes responsables de toutes les catastrophes idéologiques qu'il y a dans l'humanité. C'est bien évident. Et comment ça se traduit? Mais ça, nous retrouverons. C'est clair? Enfin, qui a fait tout ça? D'où c'est sorti tout ça? Et nous retrouverons cela un peu, si on a le temps, dans la table ronde de dimanche après-midi. D'où c'est venu? C'est venu que chaque fois, ça s'est érigé en cosmopolitisme coupé de l'identité hébraïque et quitte parfois à chercher une autre ethnie d'ertsatz de remplacement de l'ethnie hébraïque. C'est là la raison de ces échecs. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon. Et je ne sais pas, enfin ce serait un humour exagéré, peut-être sur le même plan chrétien, freudien, marxiste, mais enfin... D'ailleurs, je viens de penser comme ça, c'est encore un humour surexagéré. Un Israélien, centre d'humour, peut être aussi et chrétien, et marxiste, et freudien, mais ça change rien au fait de l'identité juive, ça c'est autre chose. Et qu'elle est hébraïque. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas une question de citoyenneté, de cosmopolitisme. Et encore une fois, comme j'ai dit hier, et c'est la seule qui peut être acquise. Vous voyez que Maïmonide est là, non pas du tout dans son cabinet de travail, en train de penser à la république des élites intellectuelles juives, voilà, mais il nous parle du bonheur d'être, et que c'est ça qu'il faut communiquer à l'humanité, et que nous aurons de cesse que lorsque l'humanité connaîtra ce bonheur d'être. Notre expérience historique de nous les Juifs nous fait comprendre cela, je crois que c'est important, que pour nous ici, l'intérêt et la vertu coïncident. Nous avons intérêt à ce que le bien règne. Et c'est pourquoi peut-être les Juifs sont tellement lancés à corps perdu dans toutes les aventures qui ont pour objet de repousser les frontières de l'injustice. Et parce que je crois que là, ça c'est très peu qu'ancien ce que je vous dis là. Je crois que la vertu la plus efficace, c'est celle qui a intérêt à être vertueuse. Est-ce que c'est clair? Et nous savons bien, je vais vous donner un peu mon exemple de la première partie de ma vie où j'ai vécu comme juif en Algérie. Alors il y avait les Arabes et les Français. Mais nous ressentions très bien que si les Arabes et les Français n'arrivaient pas à vivre ensemble, nous n'avions pas de place là-bas. Et c'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire que nous avions intérêt à ce qu'ils fassent la paix. Et que dans une société où il ne peut pas y avoir cette paix-là, c'est le signe qu'il n'y a pas de place pour les Juifs. Vous voyez à quel point notre expérience nous a montré cela. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut choquer les philosophes, surtout qu'anciens. Voilà. C'est que le Juif a une conscience aiguë qu'il a intérêt à être vertueux, sous peine de mort. C'est une question de être ou ne pas être, je veux dire, plus exactement, enfin comme Shakespeare. Parce que sinon, j'expire. Et voilà, c'est à ce niveau-là. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a beaucoup accusé les Juifs de matérialisme, d'être intéressés. Je crois que c'est cet intérêt à la vie très profond qui joue, là. Voilà, vous voyez, cet impérialisme de Maïmonide, c'est pas du tout le chauvinisme qui consiste à imposer sa vérité aux autres, c'est tout à fait autre chose. Il y a cet écueil du totalitarisme. Il y a cet écueil, comment dire, j'ai parlé de l'inquisition, c'est-à-dire que hors de l'Église, hors, ce qui serait hors du judaïsme, pas de salut. C'est pas ça, hors de la vérité, pas de salut. Et pas de salut pour le monde entier, les Juifs y compris. Alors c'est pourquoi nous avons intérêt à ce que cette vérité soit accessible à tous. Et peut-être que très souvent, les non-Juifs nous reprochent nos échecs de ce prosélytisme de la vérité qui n'aurait pas réussi. J'ai lu ça dans Toynbee, et Dieu sait qu'il n'est pas philo-sémite, il est plutôt antisémite. Il dit, après tout, on dit que l'humanité a connu la Bible. Non, l'humanité n'a pas connu la Bible des Juifs. L'humanité a connu la Bible à travers les chrétiens ou à travers le Coran des musulmans. Mais que l'humanité ne connaît pas encore la Bible. Et vous voyez la position difficile des Juifs dans ce problème. Parce que c'est à eux que finalement on la demandera. Alors s'ils racontent des histoires, mais qui ne sont pas la Bible vraiment, ça fait des catastrophes. Bien, l'histoire de la Bible. Alors on continue. Ou Shon Sifré. Vous voyez, nous sommes à peu près 2, 4, 5 lignes avant la fin. Ve'afta et Hashem, Ahavehu ala beriost. Rends-le aimable, mais c'est plus fort en réalité. Ahaveu, tu aimeras ton Dieu, ça veut dire fais qu'il soit aimé de les créatures. Que Abraham avicha, comme Abraham ton père. Vous voyez que ça commence avec Abraham. Abraham a découvert le bonheur d'être créature. Tout de suite, il ouvre sa tente à l'hospitalité de ceux à qui il va donner cette connaissance. Et il n'y avait pas de, d'horaire. Hein, comment on va faire l'horaire? Il n'y avait pas que jusqu'à 10h30, pas plus. Sur la tente d'Abraham, je veux dire. Et chez Neymar, Veta Nefesh Asher Asu Becharam. Le texte fait allusion dans ce verset à toutes les personnes qu'ils avaient fait, eux, Abraham et Sarah, à Haran, qu'ils avaient acquis à, au Dieu d'Abraham. Dans Bréchit, chapitre 12, verset 5. Clomar, et c'est pour dire que Moshe aya Abraham, de même qu'était Abraham, les filles chez aya Ohev, parce qu'il était aimant, il aimait. Que Moshe aya Katou. Ça veut dire « conduis-toi comme Abraham qui aimait les créatures ». Comme le texte en a témoigné, « Zera Abraham Ohavi ». Il y a un verset dans le prophète Isaïe, 41:8, où Dieu parle de la postérité d'Abraham, « Zera Abraham Ohavi ». La postérité d'Abraham, traduisez « Ohavi », mon ami, quelle différence avec « Ahuvi » ? Ohavi, c'est pas celui que j'aime, mon ami, dans le sens que celui que j'aime. C'est ce serait Ahuvi, mais Ohavi que j'aime, Abraham que j'aime. Non, j'ai dit l'inverse. Abraham qui m'aime, et non pas Abraham, mon ami que j'aime. C'est parce qu'il m'aime que je l'aime. C'est très important de voir ça. Abraham Ohavi et pas Abraham Ahou. Et qu'est-ce que ça veut dire d'après le sifré? Celui qui fait que les autres m'aiment. Kore be'otse masagato et b'nea adam le'emuna merov ahavato kach te'aveu ad shetikha b'nea adam elav. Alors voilà la fin donc, de ce texte. Kore be'otse masagato, qu'est-ce que faisait Abraham? Il était, et c'est ainsi que tu dois être, appelant dans l'essence même de la connaissance que lui a de Dieu, appelant les autres hommes, et devenait Adam, les Emouna, à la foi, mais rova havato, du dedans de son amour, car te aveu, ainsi tu l'aimeras à Dieu, achitikra bene Adam et lave, le signe que tu aimes vraiment Dieu, c'est que tu amènes les autres à lui. Bon, alors là, il y a effectivement, et c'est un problème objectif, les dangers, les risques de ce qu'on pourrait appeler le prosélytisme. Je crois qu'il y a une grande différence entre l'impérialisme de la pensée, si vous voulez, et ce dont il est parlé ici. L'impérialisme de la pensée, ça consiste à imposer à quelqu'un d'autre sa propre manière de voir. Alors que ce dont il est parlé ici, c'est d'amener quelqu'un d'autre à avoir la connaissance du même Dieu que soi.
C'est la face cachée de l'assimilation, ça.
Pardon ?
C'est la face cachée de l'assimilation.
Oui, oui. Il n'y a qu'une seule assimilation cachère, ce serait celle-là. S'assimiler les autres.
Merci.
Ça doit être une étymologie importante, assimilation.
C'est l'assimilation à l'appel. C'est nous qui
assimilons
tous les autres.
Et voilà, je crois que là nous avons terminé cette deuxième sourde. Ce que nous avons donc en présence, ce sera la controverse que nous avons vue tout à l'heure. Et quelle est la voie de la connaissance de Dieu? Est-ce que c'est l'étude de la Torah? Est-ce que c'est la connaissance du monde? Nous voyons bien que déjà, Maïmonide nous parlait deux choses à la fois, en mettant tantôt l'accent, premier texte, sur la connaissance du monde, tantôt l'accent sur la connaissance de la terre. Bien, alors je vais vous demander, quelle heure est-il?
Ça, c'est pas la partie.
Midi moins quart.
C'est celle que nous avons.
Midi moins quart.